4. 9h01. Le commandant Petar Velika observait chaque détail de la chambre Scheherazade avec un mélange de consternation et de dégoût. L'homme nu, allongé sur le lit, raide, froid, exsangue, semblait sculpté dans une pierre aussi blanche qu'étaient rouges les draps du lit, les tapis aux motifs perçants, les tentures mordorées accrochées au mur. Ses yeux s'attardèrent sur les bras menottés au montant du baldaquin. Nom de Dieu! Petar Velika en avait pourtant vu d'autres, des scènes de crimes, et plus encore des crimes sans mise en scène. Après avoir fui la Yougoslavie de Tito à 15 ans et laissé la moitié de sa famille à Bielovar, il était entré à l'école de police alors qu'il n'avait que 20 ans et n'avait mis que quelques mois à se forger une réputation de dur à cuire et de pur en cuir. 30 années plus tard, dont la plupart passées à ramasser des cadavres aux quatre coins de la métropole marseillaise, ça ne s'était pas arrangé. « Il s'est vidé de son sang pendant plus d'une heure », précisa Julot à côté de lui.
« Ah ?»
D'après les entailles à ses poignets, je dirais qu'il a perdu entre 50 et 60 millilitres de sang par minute. Si on ramène ça à une heure, le calcul est vite fait. 3600 millilitres, soit près de la moitié de son volume sanguin total. Le moment où les organes commencent à s'arrêter les uns après les autres. Velika n'écoutait déjà plus que d'une oreille l'adjoint qu'on lui avait collé dans les pattes. Un brave garçon de 23 ans, tout frais sorti de l'école de police. Il se demandait ce qui avait pu pousser un gosse aussi brillant à demander d'être affecté dans un service aussi minable que celui qu'il dirigeait. Julot Flores. Un lieutenant de police gentil, poli, rapide, savant, presque impossible à vexer et même doté d'un certain sens de l'humour. Tout pour l'agacer. Tout en hochant la tête de temps à autre devant son adjoint, le commandant Velika observait les deux autres flics s'affairer dans la chambre chez Scheherazade. L'illusion d'avoir été téléporté hors du temps était parfaite. Une sorte de crime rituel commis dans le palais du calife, le châtiment d'un eunuque ayant posé les mains sur la favorite du vizir. Le parfum d'encens épicé saturait ses narines. Personne n'avait eu le réflexe d'arrêter la musique orientale qui sortait d'invisibles enceintes. Les bottes des flics écrasaient les tapis de laine. Les lampes Lumilight rasaient les vasques en porcelaine et les fioles d'huile d'argan. La chambre chez Scheherazade n'usurpait pas son nom. On aurait cru se trouver au cœur du souk de Bagdad. Il s'adressa à Mehdi et Ryan, occupés à relever les empreintes.
Je peux ouvrir la fenêtre ?
Ouais. Velika tira les rideaux et poussa les battants. La magie, d'un coup, s'évapora. La fenêtre donnait sur une cour de béton, un local à poubelle. La musique exotique fut couverte par le bruit des mouettes, des camions et des bus qui défilaient sans discontinuer sur la nationale. Il tourna la tête et s'attarda sur les enseignes voisines du centre commercial, le Starbucks, le Carrefour, le Multiplex. Les dreadlocks de Johnny Depp s'affichaient en 5 mètres sur 4. L'orientalisme s'était évaporé dans les vapeurs de pots d'échappement. Pas de minaret en face, juste les tours d'immeubles et les silos du port. Le palais du califat n'était qu'un cube de tôle ondulée, miracle de la modernité. « Patron !» osa timidement Julot derrière lui. « C'est Serge Tisserand, le gérant. » Devant le commandant se tenait un type d'une quarantaine d'années, cravaté, un profil de vendeur de canapés ou de cheminées. Genre catalogue qui parle.
Vous tombez bien,
fit Pétard en jetant un regard circulaire sur les tentures pourpres.
Vous allez m'expliquer le principe de ces red corners. Il paraît que ça pousse comme les champignons depuis quelques années.
Le commandant sourit en observant derrière eux Julot prendre des notes sur une tablette rectangulaire, à peine plus grande qu'un bouquin de poche, extra plate, un gadget censé remplacer les liasses de papier qu'il était habitué à semer. « C'est un nouveau concept d'hôtel, » précisa le commercial.
« Racontez-moi ça. »«
Eh bien, c'est une franchise qui se développe un peu partout dans le monde. On trouve un bar au rez-de-chaussée et des chambres à l'étage. Le principe, c'est, disons, le self-service, Le client a simplement besoin d'une carte bancaire pour ouvrir la porte de sa chambre. C'est aussi facile que de payer un péage d'autoroute. Les clients sont facturés au quart d'heure, puis à la demi-heure, puis à l'heure. La carte est débitée quand vous ressortez, comme dans un parking. Dans les minutes qui suivent, une femme de ménage vient tout nettoyer et la chambre est à nouveau libre. Pas de réservation, pas de nom, pas de room service. Un hôtel classique, vous voyez, commandant, mais en plus pratique. Pétard laissa à nouveau traîner ses yeux sur le décor oriental de la pièce.
Ouais. La déco de vos chambres, c'est tout de même pas celle des Formule 1.
Le visage de Tisserand exprima une fierté professionnelle parfaitement maîtrisée. C'est l'autre originalité de Red Corner. Les chambres sont thématisées. Vous avez eu le temps de faire le tour? Nous possédons la chambre Luxor, la Taj Mahal, la Montmartre, la Caravansérail, la Sérénissime. Le gérant semblait parti pour réciter tout le dépliant. Pétard le coupa. Julot devait avoir déjà téléchargé tous les documents. Personnalisé? On trouve les mêmes chambres dans tous les Red Corner du monde, non? Monsieur Catalogue se rengorgea à nouveau. Exactement les mêmes! Même voyage, même dépaysement, où que vous soyez sur la planète. Ça avait l'air d'amuser Julot, constata Pétard. Même de l'intéresser. Après tout, c'était peut-être le concept idéal pour les jeunes romantiques qui touchent des salaires de misère. Lui, ce genre de décor en carton-pâte le sidérait. Pourquoi pas une chambre Vukovar pendant qu'on y était? Dans la pièce, les deux flics continuaient de s'agiter. Ryan tentait de scier les menottes pour évacuer le corps.
Il y a des caméras dans les chambres?
Vous plaisantez? Fit le commercial qui maîtrisait moins le rôle du petit artisan offusqué. Toutes nos chambres garantissent l'anonymat le plus strict. Sécurisées, privatisées, insonorisées. Ah, pensa Pétard. Cette capacité à dire nous qu'ont les employés d'une boîte qui les remplacera dans moins de 6 mois.
Et à l'extérieur?
On dispose de 3 caméras sur le parking et d'une devant la porte. Elle filme 24 heures sur 24.
Ok, on va vérifier. Et s'il vous plaît?
Il fixa son interlocuteur dans les yeux.
Arrêtez-moi ce foutu crin-crin des 1001 nuits.
Je vais essayer, bafouilla Tisserand. L'ambiance musicale est centralisée, elle aussi.
Eh bien, demandez à Sydney, Honolulu ou Tokyo de couper la sono.
Finalement, la musique dans la chambre s'était arrêtée. Le cadavre avait été évacué. Les parfums d'épices s'étaient évaporés et la plupart des flics s'étaient éclipsés. Pétard s'appuyait sur le rebord de la fenêtre. Le seul endroit pour s'asseoir dans la pièce, à l'exception du matelas transformé en éponge gorgée de sang. Le commandant s'adressa à son adjoint.
« Je t'écoute, Julot. » Je suis certain que tu as déjà interrogé 10 sites, piraté les réseaux sociaux, et que tu connais l'identité complète de ce pauvre type.
Le lieutenant Flores se contenta de sourire.
Gagné, commandant.
La victime s'appelle François Valioni, 49 ans, marié, 2 enfants, Hugo et Mélanie. Il habite au Bagne, chemin de la Quest. Pétard avait allumé une cigarette. Il cracha la fumée vers le centre commercial.
T'es sacrément rapide, Julot. Rapide et précis. Je vais finir par croire à la vertu de ce putain de big data.
Le lieutenant rougit, hésita une seconde.
C'est-à-dire, patron, j'ai surtout trouvé le portefeuille de la victime dans sa veste.
Pétard éclata de rire.
Excellent. Bon. Continue. Quoi d'autre?
Un détail étrange. C'est Ryan qui s'en est aperçu. Une piqûre au bras droit, mais pas n'importe laquelle. On lui a fait une prise de sang.
Pardon?
Tant qu'il lui en restait, bien entendu.
Pétard apprécia la pointe d'humour noir de son adjoint. À son contact, le gamin commençait petit à petit à se lâcher. Selon toute vraisemblance, son assassin, avant de lui couper les veines des poignets, lui a prélevé du sang avec un kit.
Julot exhiba dans un sac plastique transparent une aiguille, une petite éprouvette et un coton-tige ensanglanté.
Un truc qui coûte 15 euros. On l'a retrouvé dans la poubelle. Ça permet de connaître son groupe sanguin en moins de 6 minutes.
Pétard lança son mégot dans le vide. Il irait rejoindre les capotes autour des conteneurs du Red Corner.
Attends, Julot. Si je résume, ce type, François Valioni, entre de son plein gré dans cette chambre chez Erazade, vraisemblablement accompagné de son futur assassin. Il se laisse menotter au lit, puis son assassin lui fait une prise de sang, attend le résultat et, ensuite, le saigne et stire, en laissant derrière lui un cadavre halal.
On peut résumer comme ça.
Putain.
Pétard prit le temps de réfléchir avant de poursuivre avec ironie.
On a peut-être affaire à un type qui recherche un donneur de sang. C'est urgent. Une question de vie ou de mort. Il teste un donneur potentiel. Et comme le sang ne correspond pas, ça l'énerve et il le bute.
De quel groupe est le sang de Valioni ?
Au plus, répondit le lieutenant Flores. Comme plus du tiers de la population française.
Ou bien c'est un remake de Twilight.
Pétard roula des yeux étonnés.
Une histoire de vampire, précisa Julot.
Ah, et tu peux pas dire Dracula comme tout le monde ? Bon, on va commencer par demander aux caméras extérieures ce qu'elles ont vu. La personne avec laquelle François Valioni est entré dans cette chambre est sûrement une fille. Je vois mal ce brave père de famille s'aventurer ici avec un petit copain.
Julot Flores continuait de se tenir debout devant son patron. Il sortit deux nouveaux petits sacs transparents.
On a également trouvé ça dans les poches de Valioni.
Pétard se pencha pour détailler le contenu des pièces à conviction. Il découvrit d'abord un bracelet rouge en plastique perforé, du genre de ceux qu'on s'accroche au poignet dans les hôtels all-inclusive, puis s'attarda davantage sur le second sachet qui contenait 6 coquillages. 6 coquillages quasiment identiques, ovales, blancs et nacrés, longs de 3 cm, fendus en leur centre par une fine ouverture dentelée.
Jamais vu ce genre de crustacé sur les plages d'ici,
commenta le commandant.
Mystère numéro 2. Où notre brave François a bien pu ramasser ces trucs-là?
Il voyageait pour son boulot, patron.
Tu as aussi trouvé son agenda?
Non, mais il y avait des cartes de visite dans son portefeuille. François Valioni pilote le service financier d'une association d'aide aux réfugiés, Vogelzug.
La posture désabusée de Pétard Velika laissa soudain place à un réel intérêt.
Vogelzug ? T'es certain ?
Je peux vous montrer sa carte professionnelle et sa photo sur sa carte et c'est bon, c'est bon.
La curiosité de Pétard Velika s'était muée en un empressement inquiet.
Laisse-moi 2 secondes. Faut que je fasse le point. Tiens, va me chercher un café au Starbucks d'à côté.
Le lieutenant Julot Flores, d'abord surpris, hésita, puis, comprenant que son supérieur ne plaisantait pas, quitta la pièce. Dès que son adjoint fut suffisamment éloigné, Pétard Velika vérifia qu'il était seul, puis sortit son téléphone. Sa main tremblait légèrement. Vogelzug. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Il observa encore les immeubles, le port, la zone industrielle et, de l'autre côté, tout proche, le port de plaisance. Mélange de pure misère et d'éclaboussures de pognon. Les emmerdes ne faisaient que commencer.